Bienvenue dans l'accent des autres, votre rendez-vous d'actualité avec les médias francophones publics, la RTBF, France Inter, RFI, Radio-Canada et la radio-télévision suisse. Et nous débuterons précisément en Suisse cette semaine avec la deuxième banque helvétique qui se restructure en comprimant ses coûts et son personnel, Virginie Mater.
C'est une véritable mue pour Crédit Suisse avec moins de produits financiers risqués et une réduction de son effectif mondial de l'ordre de 20%.
Au Bénin, Nicolas Sûr, se déroule un procès après la mort de 4 patients en réanimation au CHU de Cotonou.
Ils ont succombé après une coupure d'électricité dans cet hôpital de référence. 4 techniciens sont poursuivis.
C'est bientôt la Toussaint et la France a chaud, très chaud, Éric Valmire, avec des températures qui dépassent allègrement les 25 degrés par endroit.
On ne parle pas d'un été indien, mais d'une canicule en automne avec des tornades très localisées.
En Belgique, c'est une première, Jacques Kremers. Il y a cette année 2 semaines de congés scolaires à la Toussaint. C'est une conséquence de la réforme des rythmes scolaires.
Oui, les congés ont débuté lundi, le 14 octobre, et ils se poursuivront la semaine prochaine, de quoi permettre aux enfants de refaire le plein d'énergie. Mais les parents, eux, s'organisent.
L'arrivée sur le trône du roi Charles III provoque un débat au Canada, Benoît Audet. C'est à propos du serment que doivent prêter les députés au moment de leur entrée en fonction.
Oui, tant à Ottawa qu'à Québec, un débat a eu lieu au cours des dernières semaines au sujet du serment d'allégeance à la couronne britannique.
Crédit Suisse, le numéro 2 bancaire helvétique, aligne donc les pertes, 4 milliards de francs encore au dernier trimestre. Et après beaucoup de rumeurs et de supputations, on a même parlé de faillite dans les médias. Eh bien, la grande banque a cette fois annoncé son plan de restructuration, Virginie Mater.
Un plan qui prévoit une refonte qualifiée de radicale de la banque d'investissement et de ses risques mal gérés ces dernières années. Crédit Suisse qui veut aussi se recapitaliser par une émission d'actions et sabrer dans ses coûts à hauteur de 15%. Et cela ne se fera pas sans tailler dans les effectifs. 9000 postes au niveau mondial, dont 2000 en Suisse. Ça représente environ 12% des effectifs. Mais pour le professeur de droit bancaire Henri Peter, ce n'est pas le plus important.
Je pense qu'il ne faut pas focaliser seulement sur ces suppressions d'emplois qui est évidemment problématique. Il faut plutôt se réjouir du fait que le Crédit Suisse soit sauvé, parce qu'il y avait quand même quelques doutes à ce propos. C'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment que ça passe par quelques sacrifices qui seront naturellement douloureux.
Un discours qu'on imagine difficile à entendre par les employés en Suisse, Virginie.
Oui, d'autant qu'ils ne s'attendaient pas à une telle coupe, parce que les activités ici sont rentables, pas comme les affaires risquées développées à Londres et à New York. Mais l'insécurité des employés n'a pas attendu les annonces de jeudi, selon Clément Dubois, responsable roman de l'Association des employés de banque.
Il y a une inquiétude qui est réelle, qui est confirmée aussi par les contacts que j'ai eus avec des responsables des ressources humaines de banques concurrentes qui m'ont dit recevoir des CV d'employés du Crédit Suisse, très bon profil, qui essayent de quitter effectivement cette banque à cause de l'incertitude qui règne maintenant.
Et les clients, me direz-vous, et ceux qui n'ont pas déjà retiré leur argent paraissent sereins.
Pour être très honnête avec vous, ça ne m'inquiète pas vraiment. Je sais que je ne vais pas perdre mon argent et les entreprises non plus. Donc on est très serein. On sait qu'ils vont faire de leur mieux.
Écoutez, ce n'est pas la première fois où les banques suisses, on va dire, se ratent dans des business sur lesquels ils se positionnent. Et ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Puis on a des bonnes assurances en Suisse étatiques, donc on n'est pas plus inquiet que ça.
Les avoirs bancaires sont en effet couverts à hauteur de 100 000 francs par client. Quant aux investisseurs, eux, ils ne sont pas vraiment rassurés. Le cours de l'action au Crédit Suisse ne s'est de loin pas redressé à l'annonce de ce plan de restructuration.
Et ce drame maintenant au Bénin, c'était au début du mois. 4 patients en réanimation au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou avaient succombé à la suite d'une coupure d'électricité. Et Nicolas, le procès a commencé cette semaine.
Sur le banc des accusés, 4 prévenus accusés d'homicide involontaire. Le responsable de la division électricité de l'hôpital et l'un de ses collaborateurs et 2 employés de la société en charge du bon fonctionnement du générateur d'oxygène du service de réanimation. Entendu lors de l'enquête, le directeur général du CHU n'est finalement pas poursuivi, ni aucun des médecins. Les 6 et 7 octobre, le CHNU, le plus ancien et le plus grand hôpital du Bénin, est affecté par 2 coupures de courant. Il est équipé de grands groupes électrogènes qui se mettent en route. Et pourtant, 4 des 7 personnes qui étaient sous respirateur dans le service de réanimation succombent.
Et a-t-on pu faire la lumière sur ce qui n'a pas fonctionné, Nicolas ?
Apparemment, le protocole en cas d'interruption de l'alimentation électrique n'a pas été respecté. À la barre, l'un des électriciens a déclaré avoir oublié de rebasculer le service de réanimation sur le réseau électrique public quand le courant a été rétabli. Interrogé sur les raisons de cet oubli, il a plaidé l'excès de travail. L'audience, qui a d'ailleurs été perturbée elle aussi par une coupure de courant, a été renvoyée au 8 novembre. La Cour a rejeté la demande de remise en liberté provisoire des prévenus. Tous quatre sont retournés à la prison civile de Cotonou en attendant la reprise des débats.
Merci Nicolas, vous nous tiendrez bien sûr au courant de l'issue de ce procès. Retour en Europe pour parler climat. En plein préparatif de la COP27 qui se tiendra en Égypte, la France connaît un octobre chaud avec des records de température. Cette dernière semaine affichait des valeurs estivales et cette douceur inhabituelle aggrave la sécheresse mais provoque aussi des tempêtes soudaines, Éric Valmire.
Ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais à Bihucourt est un phénomène très localisé, soudain, dévastateur, avec des vents de rafales dépassant les 200 km/h qui rappellent les images de cyclones en Louisiane ou dans les Caraïbes. Les deux tiers de ce village de 390 habitants détruits, habitants tous choqués par la violence et l'impact. Sur place, le reportage d'Alice Marot de France Bleu Nord.
Didier était chez lui quand la tornade est arrivée. En quelques instants, il n'avait plus de toit.
30 secondes et puis la tornade, plus rien. Tout explosait partout, les toitures envolées. Tant que je regarde à la fenêtre, tout était démoli. J'ai jamais vu ça, voir des toitures entières passer dans le ciel.
Il a passé la nuit chez sa fille dans le village voisin et comme lui, les 150 sinistrés ont pu dormir chez leurs proches. Les autres habitants sont venus spontanément offrir leur aide, comme Julien. La tornade est passée juste devant chez lui.
Tout volait, les poubelles, ils volaient dans le ciel. Mes tuiles du toit, ils volaient aussi. Il y avait les arbres, je voyais les arbres du voisin qui s'arrachaient, qui tombaient sur sa maison. Franchement, j'ai vécu quelque chose de... Si j'en ai encore des frissons, c'est vraiment incroyable.
La moitié des rues reste impraticable, recouverte de tuiles, de briques et de bois. Le travail de reconstruction s'annonce long, explique le maire Benoît-Vincent Caille.
On a quasi les deux tiers du village qui sont impactés par de gros dégâts. On n'a pas de dégâts humains, c'est le principal, mais il y a des maisons qui sont rasées. On a l'impression qu'il y a des bombes qui sont tombées sur la commune. J'ai jamais vu ça et... Là, on va sécuriser au maximum le village.
Et une cellule d'assistance psychologique qui est mise en place pour les sinistrés.
Image de guerre, ce n'est pas vraiment exagéré. Le chantier de la reconstruction, Pierre-Han, prendra plusieurs mois.
Merci Eric. Et les conséquences n'ont évidemment rien à voir, mais la chaleur étonnante de cette fin octobre a eu raison des courses de Coupe du Monde de ski prévues à Zermatt, Virginie.
Les courses hommes ce week-end et les compétitions femmes la semaine prochaine, toutes deux annulées en raison de la chaleur. La course partait pourtant d'un glacier à 3800 mètres d'altitude, mais le manque de neige à l'arrivée, soit à environ 1000 mètres plus bas, a condamné ces épreuves. La chaleur ambiante, même à cette altitude, a rendu impossible le recours au canot à neige. De quoi lancer une bonne réflexion sur la pertinence de prévoir des courses aussitôt dans la saison.
L'accent des autres.
Les petits Belges profitent eux aussi de cet automne clément, d'autant plus que pour la première fois, ils bénéficient de 2 semaines de congé pour la Toussaint au lieu d'une seule. C'est la conséquence de la réforme des rythmes scolaires qui force les parents à la débrouille, Jacques Crémers.
Trouver une garde, une activité pour occuper les enfants ou prendre congé avec eux, à chacun sa solution, car pour la première fois, du côté francophone, les écoliers du fondamental et les élèves du secondaire ont 2 semaines de congé d'automne. L'objectif, c'est de mieux faire coller les rythmes de l'école avec les rythmes biologiques des enfants et ainsi améliorer leur capacité d'apprentissage. Une réforme majeure qui a un impact sur l'organisation des familles.
Nous, pour la première semaine, on l'a inscrit à un stage. Et la deuxième, on a de la chance d'avoir les grands-parents qui vont pouvoir le garder.
Mais aussi des responsables de stage.
Nous travaillons avec énormément de bénévoles, d'animateurs, qui ont des qualifications et qui étaient disponibles pour 1 semaine en général à Toussaint. Le fait de passer à 2 semaines, la disponibilité des animateurs est totalement réduite. Et donc, nous sommes, nous, en recherche d'animateurs pour pouvoir combler, entre guillemets, cette deuxième semaine.
Mais cette deuxième semaine, c'est aussi une opportunité pour les lieux touristiques et les parcs d'attractions. Celui-ci est situé au sud de Bruxelles. Il ouvre 5 jours supplémentaires.
Il est encore un peu trop tôt pour en analyser l'impact parce qu'on n'est qu'au début des vacances d'automne et que c'est la première fois qu'on ouvre pour 2 semaines. Nous avons déjà eu un très beau premier week-end d'ouverture avec une belle affluence dans le parc et nous espérons bien sûr que ça va se poursuivre comme ça sur l'ensemble de la période.
On attendra donc la fin des congés congés et le retour en classe avant de tirer un premier bilan et aussi les enseignements, car des congés d'une durée de 2 semaines, il y en aura de nouveau en fin d'année, ça c'est comme d'habitude, mais aussi à la fin du mois de février, puisque les vacances de carnaval s'étireront dorénavant elles aussi sur une quinzaine de jours.
Et cela rimera sans doute à nouveau avec le système D pour les parents. Et pour conclure, nous traversons l'Atlantique en partant de Londres, car le rôle de la monarchie britannique enflamme les débats politiques au Canada. Le roi Charles III est en effet son chef d'État, représenté par une gouverneure générale à Ottawa. Or, l'arrivée du nouveau monarque a eu lieu en pleine campagne électorale au Québec, et Benoît Audet, le chef des indépendantistes du Parti québécois, en a fait son cheval de bataille après son élection.
Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon a déclaré d'entrée de jeu qu'il refuserait de prêter serment au nouveau roi, comme le font habituellement les députés nouvellement élus, tant à Ottawa qu'à Québec et dans les autres provinces.
Et donc, il est passé de la parole aux actes la semaine dernière.
Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, ses 2 autres collègues du Parti québécois et les 11 députés de Québec solidaire, un autre parti, ont tous refusé de prêter serment à Charles III. Ils ont plutôt déclaré leur loyauté au peuple du Québec. Ces 14 députés ont jusqu'au 29 novembre, date de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, pour convaincre les 111 autres députés de leur permettre de siéger, puisque leur assermentation n'a pas rempli toutes les exigences habituelles.
Cette polémique à Québec sur le serment d'allégeance a même gagné le Parlement fédéral à Ottawa.
Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a tenté de faire adopter une motion qui demandait que le Canada coupe ses liens avec la monarchie britannique. Sans surprise, cette motion a été rejetée à la Chambre des communes. Tant le Parti libéral au pouvoir que l'opposition conservatrice ont essentiellement refusé de débattre de cette motion en affirmant que ce n'était pas un sujet qui préoccupait les Canadiens.
Merci Benoît Audet pour ces explications. Nous prenons congé de nos chroniqueurs des médias francophones publics. L'accent des autres se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine, si vous le voulez bien.